Chers amis, c'est ainsi que les miracles se sont produits dans l'Église à ses débuts, dans ses premières années, dans ses premiers jours. Et c'est pourquoi et comment les miracles se produisent aujourd'hui. C'est en croyant au message de l'Évangile. Ce n'est pas grâce à nos bonnes œuvres. Ce n'est pas parce que j'ai passé une heure à prier chaque jour, même si c'est très utile. Ce n'est pas parce que j'ai passé une demi-heure par jour à lire ma Bible, même si c'est très utile. Ce n'est pas non plus parce que je n'ai pas donné de coup de pied au chien ou que je n'ai pas dit de choses désagréables à quelqu'un. Ce n'est pas parce que j'ai respecté la loi. Ce n'est pas à cause de mes antécédents. Ce n'est pas à cause de mon comportement, mais à cause de ma foi. Il est évident et certain que lorsque nous accueillons Christ, notre comportement s'en trouve affecté. Cela nous change de l'intérieur. La loi essaie de nous modeler de l'extérieur vers l'intérieur. La grâce nous change de l'intérieur. C'est en croyant au message de l'Évangile que les miracles et les guérisons se produisent, et non par de bonnes œuvres ou par l'observation de la loi.
Bonjour, je suis Bélez Conley. Dans la vie, nous sommes tous confrontés à l'incertitude, qu'il s'agisse de problèmes financiers, de crises relationnelles, d'un problème de santé ou simplement de la découverte de votre raison d'être. Une chose est sûre, Dieu vous voit, il vous aime, et peu importe ce à quoi vous faites face, il a les réponses.
Nous avons commencé la dernière fois, si vous étiez avec nous lors de la dernière émission, en examinant les questions qui sont posées dans les Écritures par Dieu, par le Seigneur Jésus-Christ, parfois par un prophète et parfois simplement par un individu. Des questions qui ont trait à la guérison. Aujourd'hui, nous allons commencer par le livre des Actes des Apôtres au chapitre 4. Un homme était paralysé depuis le ventre de sa mère, il n'avait jamais marché et il a été guéri. Cela a attiré l'attention de tout le monde. Les chefs religieux y ont prêté attention, l'église se réjouissait, l'homme lui-même marchait, sautait et louait Dieu. Pierre et Jean ont été appelés à se justifier devant les chefs religieux. Voici la question qui est posée dans Actes 4, 7. Ils firent comparaître Pierre et Jean au milieu d'eux et leur demandèrent « Par quelle puissance ou quel nom avez-vous fait cela ? » S'agissait-il du pouvoir de la pensée sur la matière ? Non, c'était le pouvoir de Christ sur la maladie. Au verset 10, Pierre donne une réponse très directe. Il dit « Sachez-le bien. » Vous tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. Oui, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. C'est par le nom de Jésus et par la foi en ce nom qu'il a été guéri. Chers amis, le nom de Christ a été donné à son Église. Jésus a dit, si vous lisez l'évangile de Marc au dernier chapitre, « Allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, c'est-à-dire au nom de Jésus, ils pourront chasser des démons. En mon nom, ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. » Littéralement, il est dit, « Ils pourront attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. » Mes amis, c'est une bonne promesse lorsque vous êtes sur le champ de mission, lorsque vous obéissez à Jésus et que vous portez l'Évangile aux quatre coins du monde. Je me souviens d'avoir été dans un village de montagne quelque part et d'avoir dû manger des choses que l'on m'avait présentées et que je n'aurais normalement pas voulu manger. En fait, une fois, on m'a donné à manger et à boire dans un petit village indien situé dans les montagnes à l'intérieur du Mexique. J'y avais prêché l'Évangile. Un homme venu de la ville de Mexico m'accompagnait et il ne voulait ni manger ni boire quoi que ce soit. Il s'est penché vers moi et m'a dit « Bélez, ne mange pas ». Il a ajouté « Ça va te rendre malade ». J'ai écouté ce qu'il a dit, puis j'ai regardé mon hôte. C'était le chef de tribu du village. Je venais de leur prêcher l'Évangile. Je leur avais parlé de Jésus qui fait des miracles. Et il avait un sourire sur le visage à cause de ce qu'ils avaient préparé pour moi. Mais voilà que mon ami de la capitale m'a dit, « Si tu manges ça, tu seras violemment malade. » Il a dit, « Moi-même, je n'en boirai pas et je n'en mangerai pas. » J'ai regardé et je me suis dit, « Je ne vais pas offenser mon hôte. » L'Écriture dit qu'il faut manger ce qui est présenté, sans se poser de questions pour des raisons de conscience. Jésus a dit, « Si vous buvez quelque chose de mortel, cela ne vous fera pas de mal. » C'est ainsi que vous allez prêcher l'Évangile, c'est ça le contexte. Donc c'était le contexte parfait. J'ai souri et j'ai remercié mon hôte. J'ai pris une grande bouchée, j'ai pris la tasse et j'ai bu une grande gorgée. J'ai tout bu, j'ai tout mangé et je n'ai jamais été malade. Dieu m'a protégé. Mais c'est au nom de Jésus que ces choses arrivent. Pierre a dit, « Vous voulez savoir par quelle puissance, par quel nom cela a été fait ? » C'est par Jésus-Christ. Il était et il est celui qui guérit. Nous en venons à une autre question. Galates 3 au verset 5, j'aime beaucoup la traduction que je vais vous lire parce qu'elle m'a frappé. Galates 3, 5, et encore une fois, il y a une question ici. « Celui qui, c'est-à-dire Dieu, vous accorde l'Esprit et qui accomplit des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez les œuvres de la loi ou parce que vous écoutez avec foi ?» Quand Dieu fait des miracles parmi vous, quand il vous donne son Esprit, quand les gens sont remplis de son Esprit, est-ce parce que vous avez observé la loi ou parce que vous croyez au message de l'Évangile ? Est-ce à cause de vos œuvres ou de vos antécédents, ou alors est-ce à cause de la foi? La réponse se trouve au verset 6. Il dit, « Tout comme Abraham eut confiance en Dieu. » Chers amis, c'est ainsi que les miracles se produisent dans l'Église à ses débuts, dans ses premières années, dans ses premiers jours. Et c'est pourquoi et comment les miracles se produisent aujourd'hui. C'est en croyant au message de l'Évangile. Ce n'est pas grâce à nos bonnes œuvres. Ce n'est pas parce que j'ai passé une heure à prier chaque jour, même si c'est très utile. Ce n'est pas parce que j'ai passé une demi-heure par jour à lire ma Bible, même si c'est très utile. Ce n'est pas non plus parce que je n'ai pas donné de coup de pied au chien ou que je n'ai pas dit de choses désagréables à quelqu'un. Ce n'est pas parce que j'ai respecté la loi. Ce n'est pas à cause de mes antécédents. Ce n'est pas à cause de mon comportement, mais à cause de ma foi. Il est évident et certain que lorsque nous accueillons Christ, notre comportement s'en trouve affecté. Cela nous change de l'intérieur. La loi essaie de nous modeler de l'extérieur vers l'intérieur. La grâce nous change de l'intérieur. C'est en croyant au message de l'Évangile que les miracles et les guérisons se produisent et non par de bonnes œuvres ou par l'observation de la loi. Dans sa réponse, Paul, écrivant aux Galates, a dit « Tout comme Abraham eut confiance en Dieu ». Comment cela s'est-il passé pour Abraham? Permettez-moi de vous lire un passage de Romains 4, 17. Il est dit « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations ». C'est ce que Dieu a dit à Abraham, c'était son nom. « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. » Dieu a changé son nom d'Abraham, qui signifie « père de hauteur » ou « père d'altitude ». En Abraham, qui signifie « père des nations », Dieu a changé le nom de Saraï en Sarah, qui signifie « jeune princesse ». Dieu a dit « Voilà désormais Abraham, père de hauteur, père d'altitude, tu es père d'une multitude. Maintenant, le nom de ta femme est « jeune princesse ». Maintenant, ils sont plus âgés, environ 100 et 90 ans ou quelque chose comme ça. Elle a dépassé l'âge de procréer. Elle a été stérile toute sa vie. Il leur est physiquement impossible d'avoir des enfants. Et Dieu dit ici, « Je t'ai établi ». Pas « je vais t'établir », mais « je t'ai établi ». Dieu le dit au passé. Lorsque Dieu a changé leur nom, il a dit, « Maintenant, tu t'appelleras par ce nom, Abraham et Sarah. Vous vous appelez par ce nom. » Dieu a mis les choses au passé lorsqu'il a fait la promesse. En changeant leur nom, il les a autorisés à faire la même chose. Chaque fois qu'Abraham prononçait son nom, chaque fois qu'il prononçait le nom de sa femme, Sarah, il appelait des choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Il conjuguait au passé comme si c'était déjà arrivé. Chers amis, c'est ce que fait la foi. La foi établit un lien avec Dieu. Mais il doit y avoir un moment où elle est conjuguée au passé. Pas seulement après qu'elle soit devenue une réalité physique, mais vous l'avez reçue dans votre cœur. Vous considérez que c'est fait. Jésus l'a dit dans Marc 11, 24. « C'est pourquoi, je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Je dois croire que je l'ai reçu, et alors je l'aurai. Je ne dois pas l'avoir et croire ensuite que je l'ai reçu. Ce n'est pas le bon sens. Je dois croire que je l'ai reçu dans mon cœur. Dieu a envoyé la réponse. La version amplifiée de la Bible dit à peu près ceci. Croyez que cela vous a été accordé et vous l'obtiendrez. Si je crois que cela m'a été accordé, je vais remercier Dieu. Dieu, je te remercie de m'avoir donné cela. Je te remercie de l'avoir fait. Quelqu'un peut alors s'approcher et dire, de quoi parles-tu? Tu es toujours courbé. Je vois bien que tu n'as pas reçu ça. Pourquoi dis-tu que tu l'as? Abraham disait, « Je suis le père d'une multitude. Abraham, où est la multitude? Tu dis que Sarah est une jeune princesse. Hé, hey, c'est une vieille femme. Qu'est-ce que tu fais? Je vois bien qu'elle n'est pas jeune. Je vois bien que tu n'as pas d'enfant. Qu'est-ce que tu racontes? » Abraham répondait, « Écoute, Dieu l'a dit, Dieu l'a mis au passé, je fais la même chose. » Et la foi fait la même chose. On revient à la question posée aux Galates. Paul dit, « Dieu vous donne l'Esprit, il fait des miracles parmi vous. Comment le fait-il? Est-ce parce que vous observez la loi ou parce que vous croyez au message de l'Évangile? » C'est comme pour Abraham, il avait la foi en Dieu. Nous lisons ici Romains 4 à propos d'Abraham et il est dit, « Je t'ai établi, c'est Dieu qui parle, père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant le Dieu en qui il a cru, d'accord? Devant Dieu, en présence de Dieu, Abraham a cru, le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle ce qui n'existe pas à l'existence. » Lorsque Dieu appelle une chose qui n'existe pas comme si elle existait, lorsqu'il la conjugue au passé, il vous autorise à faire la même chose. La foi fait la même chose. Il continue à parler d'Abraham, espérant contre toute espérance. Il parle de l'espérance humaine. Abraham a cru, il a cru avec une espérance surnaturelle, et est ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations, conformément à ce qui lui avait été dit, « Telle sera ta descendance ». Le texte continue. Sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans. Une traduction dit qu'il avait déjà un pied dans la tombe ou qu'il était déjà mort. Le verset continue. Ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Elle n'était plus en état d'avoir des enfants quand il l'appelle une jeune princesse. Lui, il a un pied dans la tombe, pour ainsi dire. Il a 100 ans, donc rien ne peut se produire, mais il a cru à ce qui a été dit. Le texte continue. Il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi, il a rendu gloire à Dieu. La Living Bible dit, il loua Dieu pour cette bénédiction avant même qu'elle n'arrive. C'est de la même manière que les miracles se produisent dans l'Église aujourd'hui, mes amis. C'est en croyant selon ce que Dieu a déclaré et non selon l'apparence des choses ou ce que nous ressentons. Les miracles dans l'Église d'aujourd'hui se produisent de la même manière. Ils se produiront pour vous et ils se produiront pour moi de la même manière, en croyant la parole qui a été prêchée. Non parce que je l'ai mérité par le temps que j'ai passé à prier, ou parce que j'ai distribué autant de tracts évangéliques aujourd'hui, ou j'ai respecté les règles, je n'ai rien dit de mal, et j'ai gardé mes pensées pour éviter de penser au mal. Bien sûr, ces choses sont importantes, notre comportement et notre façon de penser sont importants, nos paroles sont importantes. La bonté est importante, l'obéissance à l'Écriture est incroyablement importante, mais c'est à cause de la foi que Dieu fait des miracles et fournit l'Esprit aujourd'hui. Très bien, nous allons poursuivre. J'ai encore beaucoup de choses à dire à ce sujet, mais j'ai aussi beaucoup de questions à poser. En voici une autre. Elle est tirée de Matthieu 9. Intéressant. Dans Matthieu 9, 27, Jésus parle, l'histoire est claire. Il est dit, « Quand Jésus partit de là, il fut suivi par deux aveugles qui criaient, « Aie pitié de nous, fils de David !» Je voudrais m'arrêter ici. Deux aveugles l'ont suivi. Vous savez qu'il n'est pas facile pour un aveugle de suivre quelqu'un. C'est intéressant. Vous verrez que dans de nombreux récits bibliques où des personnes ont été guéries, elles ont cherché Jésus. Ils sont venus, la femme qui avait des pertes de sang est venue par derrière dans la foule et a saisi l'ourlet du vêtement de Jésus. Jaïrus est venu à Jésus et s'est jeté à ses pieds pour sa petite fille qui se mourait à la maison. À plusieurs reprises, le centurion romain a envoyé les anciens des Juifs à la recherche de Jésus. Ils ont agi. Ils ont été proactifs. Ils sont allés le chercher. Ce n'était pas « Dieu sait où je vis et s'il veut que j'ai ceci, il le fera, sinon il ne le fera pas ». Non, on ne lit aucune histoire de ce genre dans les Évangiles. Ici, les deux aveugles suivent Jésus et crient « Fils de David, aie pitié de nous !» Verset 28. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Fantastique. Et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?»« Oui, Seigneur !» lui répondirent-ils. Alors il toucha leurs yeux en disant « Soyez traités conformément à votre foi !» Et leurs yeux s'ouvrirent, Jésus leur recommanda avec sévérité, « Faites bien attention que personne ne le sache ou n'en entende parler. » Mais à peine sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. À cause de ce genre de choses, il n'a pas su se déplacer librement comme il le voulait. Ils n'ont pas fait ce qu'il leur a dit de faire après avoir été guéris. Il a dit « conformément à votre foi ». Eh bien, leur foi s'est manifestée en le cherchant et en le poursuivant. Jésus leur a posé la question « croyez-vous que je puisse faire cela ?» C'est important, mais ce n'est pas tout. La plupart des gens, qu'ils soient saints ou pécheurs, si vous leur posez la question « crois-tu que Dieu est capable ? Crois-tu que Dieu puisse guérir ce cancer ? Crois-tu que Dieu puisse ouvrir ses yeux aveugles ? Crois-tu que Dieu pourrait te fournir du travail ? Crois-tu que Dieu pourrait renverser la situation en ta faveur afin que la situation dans laquelle tu te trouves actuellement change ? Crois-tu que Dieu pourrait faire disparaître l'arthrite de ton corps ? » Bien sûr, oui Seigneur, c'est ainsi qu'ils répondent. C'est bien d'avoir cela. Il est bien de pouvoir répondre par un oui retentissant. En fait, vous pourriez même dire maintenant, « Oui, Seigneur, je crois que tu es capable, je crois que tu le peux. » Ce qui nous amène à une autre question très importante. Elle se trouve dans l'Évangile de Matthieu 8, 1. Nous revenons un chapitre en arrière, Matthieu 8, 1. Il est dit, « Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. » Encore une fois, il est important de comprendre que les gens l'ont suivi, ils le suivaient. Il est dit ensuite, « Alors un lépreux s'approcha, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Il y a une question dans cette déclaration. Il savait que le Seigneur était capable. Il a dit, « Tu peux me rendre pur. Seigneur, je sais que tu peux le faire si tu le veux. » La question qui se pose ici est la suivante, « Seigneur, es-tu disposé à le faire ? Je ne suis pas sûr que tu le veuilles. Je sais que tu peux le faire. Je sais que tu es capable. Mais veux-tu le faire ?» C'est là que beaucoup de gens ont tendance à trébucher. Ils savent que Dieu peut. Certes, nous savons tous que Dieu est capable. Il n'y a rien qu'il ne puisse faire. Il est Dieu. La question est la suivante, « Seigneur, le veux-tu ? Je sais que tu peux me guérir, mais le veux-tu ? Est-ce que c'est ta volonté ?» C'est là que beaucoup de gens trébuchent. Jésus tendit la main, verset 3, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Il est important de pouvoir répondre à cette question. Dieu a montré sa volonté de nous guérir en envoyant son Fils Jésus. Et par le fait que Jésus a pris les coups sur son dos, pensez-y, la Bible dit que le salaire du péché est la mort. Sans effusion de sang, il n'y a pas d'expiation ni de rémission des péchés. Le Christ est venu, est mort et a versé son sang. Il a expié nos péchés. Il a payé le prix par sa mort. Aucun théologien, quelle que soit sa confession ou son mouvement, ne contestera cette affirmation. Le prix du péché a été payé par la mort de Christ. Et seulement par la mort de Christ, par l'effusion de son sang précieux et inestimable. Si c'est vrai, alors Jésus aurait pu mourir d'une mort relativement indolore et rapide, verser son sang et payer pour nos péchés. Pourquoi, alors, le Père a-t-il permis qu'il souffre ainsi ? Pourquoi a-t-il porté la couronne d'épines sur sa tête ? Pourquoi a-t-on déchiré son dos avec ce fouet romain ? Si vous étudiez un peu la question, vous découvrirez qu'un chat romain à 9 queues, le type de fouet qu'ils utilisaient, avait de petites perles de plomb ou des morceaux d'os cousus à son extrémité et qu'il arrachait littéralement des morceaux de chair. Or, selon la loi juive, l'une des punitions était de 40 coups, moins 1, 39 coups. Certains disent « Jésus a été fouetté 39 fois ». En fait, ce ne sont pas les Juifs qui ont fouetté Jésus. Les Romains n'avaient pas de loi de ce genre et leur fouet était très différent. Rien dans les Écritures ne dit qu'il s'arrêtait à 39 coups. La plupart des gens ne survivaient pas à une flagellation romaine. Dans le livre des martyrs de Fox, il est question de personnes dont le dos a été ouvert, les muscles et les os mis à nu. On pouvait voir leurs organes. Comme je l'ai dit, la plupart des gens ne survivaient pas parce que lorsqu'ils les fouettaient, les billes de plomb ou d'os pénétraient dans la peau. Quand ils tiraient, ils arrachaient des morceaux de chair. Le dos de Jésus était ouvert. L'Écriture dit, « C'est par ses blessures que vous avez été guéris. » 1 Pierre 2, 24, lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice, c'est par ses blessures que vous avez été guéris. Encore une fois, c'est au passé. L'autre jour, je lisais un spécialiste du grec. En fait, c'était il y a quelques années. Cela fait un moment que je ne l'ai pas lu. Mais j'y pensais l'autre jour. Il dit qu'en fait, le mot « blessure » est « blessure » au singulier. Il dit le grec exige, c'est ce qu'il explique, le grec exige que si vous aviez pu discerner une blessure d'une autre, cela aurait dû être, selon la langue grecque, blessure au pluriel. Le dos de Jésus n'était qu'une masse sanguinolente, une plaie béante. Il n'y en avait qu'une. Il n'y avait plus de chair sur son dos, il n'y avait pas de blessure individuelle que l'on pouvait discerner. Son dos était complètement déchiré. C'est pourquoi en grec, c'est par sa blessure que vous avez été guéri. C'est au passé, encore une fois, Pierre considère les œuvres achevées, car c'est par ses blessures que vous avez été guéri. La prophétie qui mentionne cela se trouve dans Ésaïe 53, 4 et 5, et permettez-moi de vous la lire. Ésaïe 53, 4 et 5 dit « Pourtant, en vérité, ce qui en passant signifie exactement ce qui est écrit, en vérité, c'est vrai, sans discussion et sans aucun doute. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé, et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. » Le mot traduit ici par maladie est traduit comme cela dans tout l'Ancien Testament. La souffrance est incluse dans le mot, mais c'est le sens le plus faible du mot. Littéralement, il a porté nos maladies et s'est chargé de nos chagrins. Ce mot est également traduit par douleur physique, ailleurs dans les Écritures et notamment dans le livre de Job. Sans aucun doute, il, parlant de Jésus de manière prophétique, sans aucun doute, sans discussion, il a porté nos maladies et nos souffrances. Alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié, mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé, le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Le châtiment que Jésus a subi, et la question de savoir pourquoi Jésus n'est pas simplement mort d'une mort relativement rapide et indolore pour payer nos péchés. Pourquoi Dieu a-t-il permis qu'il souffre ainsi? Parce que c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Il a porté la couronne d'épines sur sa tête pour que nous puissions avoir la paix. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Son front portait la couronne d'épines et il a été battu à plusieurs reprises, frappé au visage. Si vous regardez le récit, ses souffrances et ses persécutions jusqu'au moment où il a été cloué à cette poutre de bois brut, pourquoi tout cela est-il arrivé? Pourquoi le Père a-t-il permis cela? C'était pour votre guérison physique, c'était pour votre paix. Sa mort a payé et réglé le problème du péché. La lacération sur son dos, la déchirure de sa chair ont apporté la guérison. Le chapitre 8 de Matthieu cite ces versets. Il s'agit d'un commentaire du Saint-Esprit sur Ésaïe 53, 4 et 5. Il est dit ici, Matthieu 8, 16, « Le soir venu, on amena vers Jésus de nombreux démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait annoncé. Il a pris nos faiblesses et il s'est chargé de nos maladies. » Ici, Jésus guérit les gens sur la base de l'expiation à venir. Nous pouvons maintenant recevoir la guérison sur la base de l'expiation passée. Encore une fois, 1 Pierre 2, 24 dit que c'est par ses blessures que vous avez été guéris. Ce que je veux dire, c'est que nous parlons de la volonté de Dieu. Dieu, veux-tu me guérir? Pensez à ce qu'il a permis à son fils de traverser. Il a écrit « Je le veux ». Et il l'a écrit avec du sang sur le dos de son fils. Je me souviens de l'un des... En fait, c'était la première fois que je voyageais à l'étranger. J'ai emmené mon épouse avec moi, j'avais été invité à prendre la parole lors d'une grande conférence à l'étranger. Je n'avais jamais voyagé à l'étranger auparavant. Je devais obtenir un passeport, nous devions obtenir des visas. Nous avons dû tous les deux obtenir des passeports et des visas et organiser le voyage en avion. Nous avons dû trouver des babysitters pour s'occuper de nos jeunes enfants. Nous avons déployé beaucoup d'efforts et, à mon retour, j'allais devoir mettre les bouchées doubles pour rattraper mon retard. Si j'étais arrivé là après tout cela et que les gens me demandaient « Eh bien, Bayless, voulez-vous vraiment partager votre ministère avec nous ?» Je me serais dit « Quoi ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous réalisez que nous avons fait appel à des babysitters pour garder nos enfants pendant 9 ou 8 jours ? Que nous avons obtenu des visas et des passeports, que nous avons organisé tous les voyages en avion. Que nous avons demandé à des personnes de venir prêcher pour nous et que j'ai doublé mon travail avant de partir? Oui, bien sûr, nous le voulons. Cela ne prouve-t-il pas que nous le voulons? Eh bien, mes amis, Jésus a quitté le monde de la gloire et est venu dans ce monde pour prouver que Dieu t'aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Il a permis que son Fils soit fouetté, battu au-delà de toute reconnaissance pour vous apporter la paix et la guérison. Oui, il le veut, il vous aime. Si vous n'avez jamais accueilli Jésus auparavant, je tiens à vous le dire. Il ne vous repoussera pas si vous venez à lui. Vous êtes aimé de Dieu. Si vous soutenez cette émission, je tiens à vous remercier. Grâce à votre soutien fidèle, nous sommes en mesure de diffuser cette émission en plusieurs langues et de l'envoyer dans le monde entier, littéralement dans quelques 120 pays différents. Nous voulons simplement que Jésus soit glorifié, nous voulons que sa parole soit diffusée et nous voulons encourager autant de personnes que possible. Jusqu'à la prochaine fois, et je reprendrai ce sujet, que Dieu vous bénisse richement au nom de Jésus. Vous êtes épuisé? Vous traversez une crise et vous ne savez plus quoi faire? Procurez-vous le livret gratuit « Saisissez la force de Dieu » de Bayless Conley. Vous y trouverez 4 étapes qui vous aideront à aller de l'avant avec une force renouvelée. Il vous suffit de vous rendre sur bayless-conley.fr/force. Vous pourrez y télécharger gratuitement le magazine au format PDF. Vous allez voir, Dieu vous réserve de bonnes choses.
Avez-vous des questions sur l'émission ou est-ce que quelque chose vous préoccupe pour lequel nous pouvons prier? Alors écrivez-nous, notre équipe apprécierait avoir de vos nouvelles.